Je modifie un tout petit peu le titre que j'avais donné, Valeur et valeur de la critique d'art, parce que dans un premier temps, c'était de la critique, ce qui aurait pu laisser penser que j'allais parler de la critique sociale ou quoi. Non, là, je vais vraiment parler du travail des critiques d'art professionnels, quel que soit le domaine, hein, les arts plastiques, la littérature, la musique et le cinéma, pour comprendre ce qu'est leur position par rapport à la question des valeurs, telle que donc je la propose dans ce livre, qui est une tentative tout simplement pour prendre au sérieux la problématique des valeurs d'un point de vue sociologique, avec l'idée toute bête au départ, c'est que notre monde est plein de jugements de valeurs, nous passons notre temps à donner des jugements de valeurs, mais qui n'ont pas vraiment été pris au sérieux ni analysés, en tout cas en sociologie. Leur statut épistémologique est un peu complexe, j'essaye de le clarifier dans une annexe à la fin du livre, ce qui fait que je pense que mon approche n'est pas typique, enfin qu'elle renouvelle en tout cas un petit peu l'approche des valeurs, c'est que d'abord elle n'est pas spéculative, je ne fais pas de spéculation sur ce que seraient les valeurs en soi, elle est toujours empirique et inductive, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre à partir de l'observation et de l'analyse du rapport des acteurs aux valeurs, comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment totalement inductif et non pas déductif ni spéculatif. Et puis, autre caractéristique, c'est une approche qui se veut résolument neutre, c'est-à-dire que je ne prétends absolument pas dire ce que sont ou devraient être les vraies valeurs, les valeurs en soi, les valeurs qu'il faudrait suivre, en essayant d'étayer ces propositions d'un point de vue sociologique. Non, j'essaye simplement de comprendre et d'expliquer ce que sont les valeurs pour les acteurs. Mon discours est purement descriptif et n'a aucune once, je l'espère, de normativité. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, il y a des gens qui me disent « mais non, finalement c'est quand même normatif », mais bon, on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, mais sur un thème comme les valeurs, il me semble que l'exigence proprement sociologique de neutralité du chercheur, c'est-à-dire que le chercheur n'a pas à entrer dans les controverses des acteurs pour décider qui a raison, qui a tort, il a à les observer et à en comprendre les soubassements. Cette exigence de neutralité me paraît particulièrement fondamentale lorsqu'on a affaire à un objet qui, justement, est celui des valeurs, des évaluations, etc. Et c'est cette exigence que j'ai essayé de maintenir tout au long du travail et que je vais continuer à maintenir aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une petite définition qui est vraiment fondamentale pour comprendre le sujet. Quand nous utilisons le mot « valeur », nous avons trois façons de l'utiliser, en fait. C'est-à-dire que ce mot condense trois acceptions pas forcément très différentes, mais qu'il faut quand même distinguer. Le premier sens, et là le mot est toujours au singulier, la valeur, c'est le sens de l'importance, de la grandeur, hein, quelle est la valeur de cette montre, quelle est la valeur de cette conférence, etc. C'est l'importance qu'il convient d'apporter à quelque chose. Le deuxième sens, et là ce sera plutôt... on pourra dire une valeur et on pourra dire des valeurs, c'est un bien, quelque chose qui a été valorisé, c'est-à-dire un objet quelconque auquel a été attribué de la valeur au premier sens et qui du même coup devient un bien. Par exemple, si je me demande quelle est la valeur de cette montre premier sens, et si cette montre s'avère être une montre de collection, c'est pas le cas, mais enfin de collection très chère, etc., elle va devenir une valeur dans le patrimoine familial, hein, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir être converti en argent, c'est un sens classique dans le domaine financier et qu'on utilise aussi dans d'autres domaines, une valeur au sens d'un bien, quelque chose auquel a été attribué de la valeur. Ça, c'est le deuxième sens. Et le troisième sens, encore assez différent, les valeurs au sens de principes au nom desquels sont effectuées des évaluations. Par exemple, la valeur de beauté pour qualifier cette montre. Est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle n'est pas belle? Ce sera la valeur de beauté au sens de principe. J'appelle ça un principe axiologique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas en français d'adjectif dérivé du mot valeur, donc on utilise axiologique, qui vient du grec et qui signifie relatif aux valeurs. Donc voilà. Donc trois sens du mot valeur: la grandeur, le bien, le principe. Et dès lors, je vais pouvoir vous expliquer quel va être le plan de mon exposé, c'est que je ne vais pas du tout vous parler de la valeur au deuxième sens, c'est-à-dire de la question de savoir si la critique d'art est un bien. si c'est quelque chose de bien, si c'est quelque chose à quoi il faut, il est bon d'attribuer de la valeur, puisque mon rôle n'est ni de critiquer ni de louer le travail des critiques d'art, encore une fois, je suis dans la neutralité axiologique, donc cette question de la valeur de la critique d'art en tant qu'elle serait ou pas un bien, faut-il des critiques d'art ou ne faut-il pas des critiques d'art? Faut-il supprimer les critiques d'art? Hein, je n'en traiterai pas. La seule façon dont je pourrais en traiter, c'est si j'analysais des discours, des débats sur cette question-là, et où, à ce moment-là, je me positionnerais en description et en analyse de ces discours pour essayer de comprendre au nom de quoi certains disent que la critique d'art c'est une bonne chose et d'autres disent ça c'est pas une bonne chose. Bon. Donc j'oublie le deuxième sens et mon propos va se construire en deux parties. La première partie correspondra au premier sens du mot valeur, quelle est la valeur de la critique, à quelles conditions la critique est-elle créditée d'avoir une valeur, et ces valeurs au singulier, hein, dans le titre de la conférence. Et la deuxième partie, ce sera les valeurs de la critique, au pluriel, puisqu'il s'agira de valeurs au troisième sens du terme, donc les valeurs au sens de principe axiologique, sur quel principe d'évaluation les critiques s'appuient-ils pour produire leurs évaluations. Donc voilà les deux grandes parties de la conférence. Et donc, première partie, valeur au singulier de la critique. À quelles conditions une critique en art est-elle considérée comme crédible, hein, ça va être un petit peu le fil rouge de ma réflexion. Et je vais commencer par une phrase célèbre de François Truffaut qui disait « Les Français ont deux métiers, le leur et critique de cinéma ». Bon, alors ça dit bien la propension des citoyens ordinaires à s'exprimer sans complexe à propos de certains objets culturels, notamment lorsqu'il s'agit d'objets culturels peu élevés dans la hiérarchie des arts. On pourrait difficilement dire ça sur la littérature ou les arts plastiques ou même la musique classique, hein, où les gens sont un peu plus réticents à exprimer leur opinion, mais sur quelque chose d'aussi peu élevé dans la hiérarchie artistique que le cinéma, ça c'est pas difficile. Simplement, une fois qu'on l'a dit, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il existe de grandes différences entre l'opinion du simple citoyen et l'opinion du critique professionnel. Le simple citoyen, le spectateur profane, pour reprendre l'exemple du cinéma, s'exprime oralement. Hein, il ne va pas l'écrire, sauf s'il fait un mail à un ami pour lui dire « faut absolument que tu ailles voir le dernier film de machin », mais en gros, ça se passe plutôt oralement. Ça ne sera pas publié, hein, même si c'est écrit, ce sera de la correspondance privée, ce ne sera pas publié. Donc, dans un cadre domestique ou amical, c'est typiquement à la sortie du cinéma, qu'est-ce qu'on a pensé ? Ah, ce film est formidable. Bon, voilà, typiquement le degré zéro, si on peut dire, hein, de la critique profane, non spécialisée. Tandis que le critique professionnel va s'exprimer par écrit ou oralement, mais dans un média de diffusion, comme la radio ou la télévision, et dans un cadre évidemment professionnel, puisqu'il va être payé pour donner son opinion, ce qui n'est pas la même chose que quand nous sortons du cinéma et que nous parlons du film que nous avons vu. Alors, du coup, on peut s'interroger sur la spécificité du jugement critique, du critique professionnel. Qu'est-ce qui, par rapport à notre propension extrêmement répandu à donner nos opinions sur tel et tel sujet, notamment sur des films ou des œuvres d'art, quelles qu'elles soient, qu'est-ce qui fait la spécificité donc de la posture professionnelle du critique d'art? Sa spécificité, c'est qu'elle se situe à mi-chemin sur un continuum entre, d'un côté, à un pôle, la simple opinion du profane, « moi, je pense que », et de l'autre, l'expertise savante, hein, la prise de position de l'expert qui, elle, obéit à des contraintes très lourdes et très spécifiques sur lesquels je ne vais pas insister, dont je parle dans la première partie du livre. On le voit notamment dans la critique d'art, dans l'expertise artistique, pardon, où là, les experts ont des contraintes très fortes, puisque leur jugement, notamment concernant l'authenticité d'une œuvre, va avoir des répercussions énormes, puisque selon qu'ils estiment qu'un Rembrandt est authentique ou ne l'est pas, ça va complètement changer, évidemment, la carrière de l'œuvre, son prix, etc., etc. Donc ça, c'est l'expertise au pôle le plus opposé de la simple opinion. Et entre les deux, eh bien, on a les critiques d'art, dont le jugement, selon le contexte, selon la situation, va osciller entre une simple opinion, pas très différente de celle du profane, et quelque chose qui ressemble à l'expertise. Alors, pour bien comprendre comment se produit cette oscillation, il faut s'intéresser, et Philippe en a dit un petit mot, aux trois formes d'attribution de valeur. Quand nous sommes en situation d'attribuer de la valeur, c'est ce que le philosophe pragmatiste anglais John Dewey a appelé une valuation, hein, une attribution de valeur, nous avons trois possibilités, trois formes, trois grandes formes pour le faire. La première est celle qui a bizarrement, je crois, la moins étudiée, la moins visible, la moins problématisée, c'est l'attachement. C'est le fait que tout simplement nous manifestons un attachement à quelque chose. Alors si je reprends l'exemple du cinéma, ça va être le fan de tel film qui va dire « Écoutez, moi je l'adore, je l'ai vu 10 fois ce film, je l'ai chez moi, j'ai acheté tout ce que j'ai pu faire là-dessus, etc. Je ne me lasse jamais de le revoir, etc. » Bon, voilà une manifestation d'attachement. Nous en avons des exemples de tous les côtés. Et ces attachements se manifestent dans certains cas par des paroles, hein, quand nous sommes en situation réflexive de raconter nos modalités d'attachement, je l'ai vu 100 fois, je l'adore, etc. Mais très souvent par des gestes ou des actes de possession, hein, le fait d'acheter tout ce qui concerne telle ou telle œuvre d'art, se faire un selfie devant la Joconde, acheter une carte postale, etc. etc. Enfin, il y a toutes sortes d'actions, de gestes qui manifestent un attachement et qui sont en fait à la fois des conséquences de la valeur que nous attribuons à l'objet et des formes d'attribution de cette valeur, puisque le fait de manifester cet attachement va produire une valorisation de l'objet. Deuxième forme d'attribution de valeur, la mesure. On va mesurer la valeur. Alors, la mesure la plus connue, c'est le prix. Hein. Quelle est la valeur au premier sens de cette montre ? 500 euros, voilà, une façon donc de mesurer une valeur par le prix, c'est la forme la plus connue. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est notamment de sortir la problématique de la valeur de la problématique du prix, parce que, évidemment, cette problématique de la valeur a été beaucoup monopolisée par les économistes en la réduisant à cette forme particulière d'attribution de valeur qu'est le prix, qui existe bien sûr et qui est très importante, mais qui n'est qu'un tout petit élément de l'attribution de valeur. Et si nous voulions réduire la question de la valeur à la question du prix, je crois que nous nous condamnerions à ne rien comprendre à la question de la valeur. Bon. Donc, le prix est une des dimensions les plus connues de la mesure, mais il y a d'autres mesures. Et si je reprends l'exemple du critique de cinéma, eh bien, quand vous lisez l'Officiel des spectacles, vous voyez qu'il y a toujours des petites étoiles, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, hein, pour mesurer la valeur que le critique accorde au film. Dans Le Monde, il y a 4 carrés pour un chef-d'œuvre, etc. Bon. Donc, on a trouvé des solutions pour résumer la valeur, au premier sens du terme, qu'un critique d'art accorde à un objet culturel, sous une forme extrêmement condensée, et d'ailleurs souvent critiquée pour cette même raison, parce qu'elle est vraiment minimaliste, qui est la question de la mesure, notamment par le nombre d'étoiles. Bon. Et puis, troisième forme d'attribution de valeur, celle qui, évidemment, nous intéresse le plus, ce sont les jugements de valeur, c'est-à-dire les mots. Hein. Alors, la mesure passe beaucoup par des chiffres, hein, ou des symboles, comme l'étoile. L'attachement, je l'ai dit, passe beaucoup par des actions, des gestes, des comportements. Et les jugements, ben, c'est typiquement le domaine de la parole, ou de l'écrit, en tout cas les mots, les énoncés. Et c'est ce qui les rend particulièrement utiles pour les chercheurs en sciences sociales, parce qu'ils sont sont disponibles. Hein. On peut aller sur Internet, faire la liste des jugements qui ont été donnés sur tel ou tel objet. On peut, recueillir toutes sortes de mots qui sont les jugements et qui vont nous permettre de travailler avec. D'où le privilège que nous accordons au jugement, mais qui est souvent un privilège méthodologique et dont je trouve que quelquefois il tend à minorer un peu trop les autres formes d'attribution de valeur, et notamment l'attachement. Et donc, ces jugements de valeur, si on les considère dans le cadre de la critique d'art professionnel, eh bien, elles iront du jugement fourni par un journaliste dans un quotidien, prenons par exemple un quotidien régional, avec le journaliste qui va faire une notule sur le film qui vient de passer, ou sur l'exposition, ou sur le livre, bon. Ça, c'est à un pôle. Et à l'autre pôle, le critique érudit, qui tend plutôt vers l'historien d'art, voire vers l'expert, et qui écrit dans des revues spécialisées. Et on retrouve notre continuum entre l'opinion profane d'un côté et l'expertise de l'autre, mais à l'intérieur de la position du critique d'art professionnel, qui va osciller entre ces deux polarités. Donc, il existe une hiérarchie très nette des critiques d'art, si l'on prend en compte hein, cette double polarisation entre l'opinion et l'expertise, ou entre le journaliste dans un quotidien et le critique spécialisé. Alors, une hiérarchie qui se manifeste d'abord par le degré de notoriété, hein, puisque à une extrémité, on va avoir le critique d'art très connu, qui signe de véritables tribunes, qui même s'autorise la première personne du singulier. Hein, les grands critiques d'art peuvent dire « moi, je pense que… » etc. Et à l'autre extrémité, le critique en général anonyme, qui ne va pas signer ou signer quelquefois de ses initiales hein, dans les notules, donc qui va faire de petits comptes rendus comme ça, assez descriptifs. Et c'est ce degré de notoriété donc, qui va déjà construire un premier axe de hiérarchie entre les critiques d'art professionnel. Le deuxième axe étant l'axe des supports dans lesquels ils s'expriment, puisque dans un quotidien régional, le jugement de valeur du critique d'art va être assez peu valorisé, justement, va avoir une valeur assez faible du point de vue de la légitimité qu'on lui accorde. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un grand quotidien national, et mieux encore d'une revue spécialisée, les cahiers du cinéma, une revue d'art, une revue littéraire, etc., à ce moment-là, bien sûr, la longue critique très développée d'un critique d'art connu, souvent universitaire, etc., va avoir beaucoup plus de crédit, a priori, que celle du journaliste anonyme dans un quotidien local. Donc, double axe hein, de valorisation du jugement de valeur du critique d'art, l'axe de la notoriété personnelle et l'axe de l'importance du degré de spécialisation du support dans lequel il s'exprime. Il existe donc une pluralité des inscriptions institutionnelles de la critique, puisque on a le pôle indépendant des critiques créateurs, hein, ceux qui vont s'exprimer quasiment comme des artistes. Hein. On a le pôle universitaire, hein, par exemple Philippe Dagen dans Le Monde est un historien d'art universitaire, par ailleurs critique d'art. On a le pôle proprement journalistique, hein, de gens qui sont formés comme journalistes et qui s'expriment comme journalistes. Et on a même le pôle de l'administration culturelle, par exemple le conservateur de musée, commissaire d'exposition, qui va faire partie donc, de l'administration culturelle, mais qui, en tant que spécialiste, va pouvoir donner un jugement de valeur sur les œuvres. Notamment, vous connaissez tous les textes d'accompagnement des œuvres dans les expositions, hein, qui sont écrits par les commissaires et qui aussi sont des processus de jugement de valeur par des spécialistes, donc qui, d'une certaine façon, relèvent du domaine de la critique d'art. Et bien évidemment, tous ces différents pôles de la critique d'art professionnel sont soumis à des contraintes spécifiques, et je vais en lister quelques-unes pour vous faire mieux comprendre que la possibilité d'être crédité en tant que critique d'art professionnel d'une certaine valeur, d'une certaine légitimité, eh bien, est étroitement encadré par des contraintes. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour que de la valeur se produise, il faut obéir à des contraintes spécifiques qui ne sont pas les mêmes dans les différents univers. Et dans l'univers de la critique d'art, on a d'abord une grande contrainte liée à l'opposition entre subjectivité et objectivité. Et elle est assez complexe, assez délicate, puisque là encore, on peut polariser les choses. À un pôle, on va avoir le simple jugement de goût explicitement subjectif. Moi, j'adore. Hein, ça, c'est typiquement un jugement de goût subjectif. Et à l'autre bout, à l'autre pôle, on va avoir un jugement non pas de goût, mais de valeur, c'est-à-dire qui va être focalisé sur l'objet et non pas sur le sujet. Ce film, ce livre est extraordinaire. À visée objectivante, c'est-à-dire prétendant à dire ce qu'est la valeur objective. Hein, donc subjectivité, objectivité. La subjectivité étant tournée vers l'émetteur du jugement et l'objectivité vers l'objet du jugement, bien sûr. Si on prend maintenant les simples jugements de goût, hein, qui assument leur dimension subjective, on a aussi, on retrouve la différence que j'ai pointée tout à l'heure entre le jugement exprimé par un simple profane, d'un côté, et le jugement d'expert. Et ils n'ont pas du tout la même force, même s'ils ont la même forme. Par exemple, le mot « j'ai beaucoup aimé », exprimé par un simple spectateur de cinéma à la sortie du film, n'a strictement aucun poids. C'est-à-dire qu'une fois qu'il l'a dit, à la rigueur, il se disputera avec son conjoint ou ses amis qui, eux, n'ont pas aimé, mais ça en restera là. Tandis que le « j'ai beaucoup aimé » du membre du jury du Festival de Cannes va avoir un impact autrement plus grand, puisqu'il va se retraduire en influence sur les autres jurés et éventuellement en affectation d'un prix au sens du prix des festivals, hein, pas le price, mais le prize en anglais. Bon. Et donc, on voit que la compétence de l'énonciateur suffit à modifier la force persuasive du jugement qui le fait glisser du jugement de goût au jugement de valeur. C'est-à-dire qu'avec une même forme rhétorique, j'ai beaucoup aimé, on va avoir, si l'énonciateur, si le sujet du jugement est un simple citoyen ordinaire, un jugement de goût, mais si il est un critique d'art patenté, voire un expert, ça va devenir un jugement de valeur. Voilà, donc ça, on voit bien comment il faut prendre en compte les différentes dimensions de l'attribution de valeur pour en comprendre les ressorts. Et dans ces différentes dimensions, il est fondamental de comprendre qu'il y a trois grandes dimensions dans un processus d'attribution de valeur. L'objet du jugement, bien sûr, qu'est-ce qu'on juge? Le sujet du jugement, qui juge? Et ça, c'est très important, et c'est, à mon avis, l'apport de la sociologie, le contexte du jugement. Parce que sans le contexte, on ne peut pas comprendre ce qui fait la force d'un jugement de valeur. Et là, je viens de vous citer le Festival de Cannes. Il est évident que le contexte spécifique d'un grand festival international colore un énoncé normatif, évaluatif, d'une façon très particulière, qui fait que le même énoncé dans un autre contexte n'aura pas du tout le même sens et la même force. Voilà. Donc sujet, objet, contexte, c'est la triade magique qu'il faut prendre en compte lorsqu'on étudie les jugements de valeur. Et donc, si je reviens au cas du cinéma, que j'aime bien parce que c'est un cas trivial que tout le monde connaît, voilà, c'est bon. On voit que seule l'identité professionnelle des critiques de cinéma à travers leurs compétences présumées confère un minimum de généralité ou d'objectivité à leur goût tel qu'il s'exprime et donc un minimum de fiabilité à leur avis. Hein. Le « j'ai beaucoup aimé », encore une fois énoncé par notre voisin de palier ou par un passant quelconque, ne serait qu'une information sur ses goûts, hein, c'est une information sur ses goûts, mais pas une indication sur la valeur de l'objet en question. Et donc, en matière de jugement évaluatif, la subjectivité d'un énoncé directement rapporté à son énonciateur, le fameux « j'ai beaucoup aimé », plutôt qu'à son objet, le « c'est excellent », doit être compensée par la grandeur de l'énonciateur, de façon à opérer cette montée en objectivité qui permette un minimum de validation du jugement. Vous voyez comment L'infériorité du jugement de goût par rapport au jugement de valeur sur l'axe de la crédibilité du jugement doit être compensée par la grandeur relative de l'énonciateur. Et donc, c'est dire que seule, encore une fois, la prise en compte pragmatique du contexte énonciatif et du sujet du jugement permet de saisir pleinement le sens d'un énoncé. Ce qui veut dire concrètement que quand on étudie des jugements de valeur, eh bien, on est toujours amené à prendre en compte ces trois dimensions. Une autre contrainte qui pèse sur les jugements des critiques d'art pour les rendre crédibles, par-delà donc leur différence sur l'axe du degré d'objectivité entre jugement de goût et jugement de valeur, c'est que ces jugements de goût comme ces jugements de valeur ont en commun d'être porteurs d'évaluation et plus ou moins explicitement de prescription. Alors là, je vous renvoie à un livre que j'ai énormément utilisé, bien qu'il soit très peu connu, bizarrement, d'un spécialiste de l'énonciation qui s'appelle Gilbert Dispo et qui avait publié un livre remarquable sur la typologie des énoncés, des jugements, où il fait une distinction tripartite très utile entre ce qu'il appelle le jugement de descripteur, description, le jugement d'évaluateur et le jugement de prescripteur. Et les trois, évidemment, ont un statut très différent et répondent évidemment à des contraintes différentes et ont des conséquences différentes. Bon. Alors, exprimer son enthousiasme envers un film, expliciter les qualités qui justifient cet enthousiasme implique une incitation du destinataire à aller voir le film, à aller voir l'exposition, à lire le livre, le concert, etc., ou à partager cette opinion positive, si ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que dans toute évaluation, il y a presque toujours, de façon plus ou moins explicite ou sous-jacente, une prescription. Hein. C'est un très grand film, sous-entendu, allez le voir. Et d'ailleurs, c'est très souvent explicite, puisque vous savez comment les critiques de cinéma transforment leurs évaluations positives en prescriptions. Faut un film à ne pas rater. Bon. Alors, donc, l'opinion du citoyen n'aura pas une grande influence, sinon sur son entourage proche. Hein. En revanche, l'opinion du critique d'art a toutes les chances d'engager la carrière commerciale d'une œuvre, voire sa cote artistique, sa capacité à durer en s'inscrivant dans l'histoire de l'art et non plus seulement dans l'actualité du divertissement, du loisir, etc. Donc on voit comment il y a une responsabilité hein, dans la prescription du critique d'art qui n'a pas du tout le même poids que celle du jugement de valeur du citoyen ordinaire. Si on reprend l'exemple du cinéma, pour préciser un petit peu, dans un quotidien, le critique exerce essentiellement une fonction prescriptive avec à voir, pourquoi pas à éviter, hein, là je reprends les typologies du Monde, hein, pour ceux qui sont des lecteurs du Monde, alors qu'à l'autre extrémité de la hiérarchie, l'opinion du critique qui exerce dans une revue mensuelle de haute cinéphilie va avoir une fonction plus évaluative, ce ne sera jamais prescriptif, n'attendez pas qu'à la fin d'un article dans les cahiers du cinéma, ça se termine par un film à voir absolument. Le type serait viré hein, s'il disait ça. Donc, plus on est haut dans la hiérarchie de spécialisation du critique d'art, moins on est dans la prescription et plus on est dans l'évaluation, ce que vaut le film, mais surtout dans l'interprétation, ce qu'il signifie, sa place dans les différentes catégories cinématographiques, dans l'histoire du cinéma, et vous pouvez bien sûr transposer ça à la critique littéraire, la critique artistique, la critique musicale, etc. Et ce qui est important à voir donc dans ce continuum hein, entre évaluation et prescription, homologue du degré de crédibilité, donc de valeur attribuée au jugement de valeur du critique d'art professionnel, c'est que bien sûr l'évaluation et la prescription diffèrent sur l'axe également du degré de ce qu'on appelle aujourd'hui en sociologie l'agency, donc terme anglais, ou l'agentivité, c'est-à-dire la capacité à agir ou à faire agir. Hein. C'est sur cette question de l'action que, bien évidemment, va se faire la différence entre l'évaluation et la prescription. Mais même si, donc, ces capacités d'agency, d'agentivité, sont très différentes selon qu'on a affaire à un critique d'art évaluateur ou à un critique d'art prescripteur, ce qu'ils ont en commun, c'est que leurs jugements appartiennent à une même catégorie énonciative, qui est celle, donc, des énoncés normatifs et non pas des énoncés descriptifs, comme est mon exposé ici. J'espère que vous avez senti la différence et que vous comprenez bien que rien de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant n'a la moindre valeur normative. Avant-dernier point concernant ces contraintes qui posent sur la critique, la question de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des critiques d'art, finalement? Pourquoi est-ce qu'on a inventé ce métier bizarroïde qui n'a pas existé avant à peu près le XVIIIe siècle? C'est qu'il n'est pas toujours allé de soi de livrer publiquement son opinion sur une œuvre produite par un artiste lorsque cette opinion, si elle est négative, est susceptible d'être lue comme une attaque envers sa personne, plutôt que comme un point de vue argumenté sur l'œuvre. Je pense que là, il y a un grand problème pour la critique. Et il faut être sorti au moins mentalement de l'espace du salon mondain où l'on fait des ragots sur les personnes pour entrer dans l'espace du salon de peinture, et là je me place dans l'optique de l'histoire des arts visuels, pour pouvoir dissocier l'appréciation de l'œuvre d'un côté et l'appréciation de celui qui en est l'auteur de l'autre. Et c'est cette liberté de critiquer sans blesser la personne, mais en prenant pour objet explicitement et exclusivement l'œuvre, que revendiqua le premier critique d'art français, Lafont de Saint-Yenne, au début du XVIIIe siècle, je le cite. « Un tableau exposé est un livre mis au jour de l'impression, donc publié. C'est une pièce représentée sur le théâtre. Chacun a le droit de porter son jugement. » Revendication du droit à porter un jugement sans porter atteinte, d'une certaine façon, à l'auteur. Ça n'empêche pas qu'un demi-siècle plus tard, en 1785, le salon de peinture s'ouvrira encore sous l'adage « loue ce qui est entrepris ». Il faut entrer dans le salon de peinture avec l'idée qu'on est là pour louer, pour faire l'éloge des œuvres et non pas pour les critiquer. Donc on voit comment très longtemps a persisté cet interdit de la critique. Mais évidemment, la nécessité de la critique d'art, malgré cet interdit portant sur le risque d'attaquer les personnes, s'est imposée à partir du moment où est apparue une dissociation entre le prix marchand d'un produit et sa valeur esthétique, et où cette valeur ne renvoie plus seulement à un agrément personnel, le jugement de goût, mais à des valeurs communes, à un intérêt général. Et c'est ce régime qui est devenu celui des arts et des lettres à partir de l'âge classique, en gros à partir du fin 17e, début 18e siècle, on est entré dans un nouvel âge de ce que Kozelek a appelé l'âge de la critique, où l'on sort de la simple consommation qui engage le plaisir, le confort, l'intérêt privé des individus qui échangent des biens sur un marché, de la simple consommation, donc on passe à l'appréciation qui engage des positions sur des échelles de valeurs partagées, argumentées, étendues dans l'espace et dans le temps, donc généralisées. On passe donc du consommateur à l'amateur. Et c'est là qu'arrive la critique d'art, puisque la généralisation des enjeux esthétiques entraîne l'élévation des compétences à juger, donc l'apparition des commentateurs spécialisés, qu'ils soient amateurs dans un premier temps, puis de plus en plus professionnels. Et là, on voit comment il y a une histoire des contraintes qui pèsent sur la critique d'art professionnelle. Et après, donc, l'objectivité et la responsabilité dont j'ai parlé, il y a encore quelques contraintes que je vais rapidement lister. L'évitement de l'incertitude, l'impossibilité de se prononcer, de se positionner face à un objet d'art, est ce qu'un critique professionnel doit à tout prix éviter. Il doit pouvoir faire la preuve qu'il a une opinion face à une exposition, un film, un roman, etc. Il est payé pour avoir des opinions, pour les publier, et donc il occupe une position sociale très parfaitement apte à l'émission d'un jugement de valeur. Il est là pour ça. Imaginez un critique de cinéma qui, dans les colonnes d'un quotidien, écrirait « Je ne sais pas quoi penser de ce film, donc je ne vous en dirai rien ». Bon, il serait considéré comme pas sérieux et risquerait de voir sa carrière de critique très vite écourtée. Donc si un critique est l'objet, un critique est l'objet d'une double injonction, d'abord exprimer une opinion plutôt que rien, et ensuite exprimer une opinion justifiée. C'est donc tout un métier, même si cette frontière, comme je l'ai dit, entre critique professionnelle et critique amateur n'est pas toujours claire et tend aujourd'hui à se brouiller énormément avec Internet. Je passe là-dessus, mais on pourra y revenir si vous voulez. Autre contrainte, la nécessité d'expliquer son jugement de goût qui différencie le critique professionnel du simple citoyen. Le critique d'art professionnel a le droit de dire « j'aime », j'ai beaucoup aimé, mais à condition de pouvoir expliquer pourquoi. Et c'est là, évidemment, que vont se produire toute une série de qualifications, de descriptions de l'œuvre, d'interprétations qui vont donner un étayage à ce jugement de goût. Autre contrainte pesant sur la critique d'art professionnel, l'interdit de toute corruption. Être payé, un critique de cinéma qui serait payé par le producteur pour dire du bien de l'œuvre, se disqualifierait immédiatement dès lors que ce serait su. La corruption, c'est l'accusation suprême parce qu'elle transgresse la visée d'intérêt général affectée à la critique d'art. Il est important aussi pour un critique d'art professionnel de distinguer clairement entre la critique de l'œuvre et la critique de l'artiste lui-même. On vient de le voir sur l'histoire de la critique d'art, comment elle se détache d'une critique de la personne. J'avais fait il y a très longtemps un article sur les deux approches personnalistes et opéralistes en art. Personnaliste, c'est l'approche qui va aborder les œuvres d'art à partir de la personne de son auteur et qui va s'intéresser à sa biographie, à sa psychologie, qui est une approche en général assez peu légitime, qui est en général celle du grand public, même si elle peut l'être aussi chez les professionnels, alors que ce qui est plus légitime chez les critiques d'art professionnel, c'est de s'intéresser à l'objet, à l'œuvre elle-même, avec une, en général, disqualification de l'approche trop biographique. J'avais vu ça à propos de Van Gogh. Le critique d'art professionnel a le droit de faire intervenir des considérations biographiques, mais à condition de les accompagner d'un soubassement très solide de considérations interprétatives de l'œuvre, descriptives de l'œuvre, etc. Autre contrainte très intéressante et qui a été peu étudiée, c'est la modération dans la critique négative. Alors là, je m'appuie sur une thèse au jury de laquelle j'étais à la fin des années 90, d'un sociologue qui s'appelle Mathieu Béra, et qui a fait toute sa thèse sur les critiques négatives. À quelles conditions est-ce qu'il y en a et à quelles conditions un critique d'art peut dire du mal de l'œuvre en question. Et il a montré que cette possibilité de dire du mal d'un film de la part d'un critique professionnel est extrêmement limitée, je le cite. Sur un corpus de près de 2000 articles concernant l'art, 201 ont une connotation critique, soit uniquement 10% du corpus qu'il a constitué de critiques d'art. Parmi ceux-ci, 57 s'en prennent à des œuvres, soit 25% des articles critiques, mais seulement 3% du total des articles. Nouveau filtrage encore quand on ne relève que ceux qui concernent des œuvres d'artistes contemporains. On n'a plus que 42 critiques. Quand l'artiste est vivant, sur 2000 items de critique d'art, seulement 42 disent du mal d'une œuvre due à un artiste vivant. Enfin, les deux tiers de ces articles restants critiquent des artistes reconnus, tandis que seulement un tiers s'autorise, donc 0,75% des 2000 critiques d'art qui ont été étudiées, s'autorise une critique d'artistes peu connus. L'enseignement majeur de ces calculs est donc, dit Mathieu Béra, l'évidente exceptionnalité de la critique négative réelle. C'est en fait très exceptionnel que l'on fasse une critique négative, d'autant plus lorsque l'artiste est vivant et d'autant plus lorsqu'il est peu connu. Et on voit bien là aussi comment joue la hiérarchie des supports. La presse qui s'autorise le plus les critiques négatives, c'est la presse spécialisée, Le Monde et Libération, par exemple. Par contre, la presse régionale ne donne pratiquement jamais de critiques négatives. L'étendue du lectorat fait obstacle à la critique négative. Plus un support est diffusé, moins il s'autorise à adopter un ton critique. De même que la place élevée de l'art en question dans la hiérarchie des genres. Et on retrouve le cinéma qui autorise une proportion nettement plus importante de critiques négatives que les arts plastiques. Hein, voilà, parce qu'il est plus bas dans l'échelle. Bon. Donc le souci de ménager les personnes, en l'occurrence les artistes, à travers leurs œuvres, ainsi que d'éviter l'accusation d'abus de pouvoir, contribue, me semble-t-il, à expliquer cette auto-limitation par les critiques eux-mêmes du droit qui leur est professionnellement reconnu de dire publiquement du mal. Voilà donc une contrainte très intéressante. Et donc on voit que le professionnalisme du critique se reconnaît d'abord à sa capacité à respecter ses régulations essentiellement non dites. À l'opposé de la parole relativement libre du critique amateur, le critique d'art se rapproche d'une autre catégorie de producteurs d'opinion crédités d'une haute compétence professionnelle, en même temps que soumis des contraintes d'expression encore plus lourdes, les experts. Hein, et on retrouve la polarité que j'indiquais tout à l'heure entre le jugement profane et le jugement expert. Voilà donc à quelles conditions peut se construire la valeur de la critique d'art, hein, pour répondre à la question que je posais dans la première partie. Maintenant, j'en arrive à la deuxième partie. Quelles sont les valeurs de la critique d'art? Quels sont les principes axiologiques, donc au troisième sens du mot valeur, auxquels obéissent les critiques pour produire leur jugement de valeur? On va voir donc des principes très attendus, mais aussi, je terminerai par les principes pas du tout attendus, voire carrément prohibés. J'ai beaucoup travaillé sur des commissions de sélection. Alors, ça peut être des commissions d'achat d'œuvres d'art dans les FRAC, des commissions d'attribution de bourses à des artistes, des commissions de classement monuments historiques dans des commissions patrimoniales, des commissions d'attribution de bourses à des écrivains par le Centre national du livre, enfin... Une grande partie de mon travail, en fait, repose sur des observations de commission. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des situations où des spécialistes doivent produire des jugements de valeur qui vont avoir une valeur prescriptive et qui doivent être hautement étayés pour pouvoir convaincre leur pair. Bon, donc c'est une situation idéale et où, en plus, on n'a pas besoin de faire reconstruire artificiellement par la personne quelles sont ses valeurs, puisqu'il les donne en situation réelle. Donc elles sont pertinentes, elles sont explicites et elles sont condensées en une matinée ou une après-midi, ce qui permet des études de cas absolument passionnantes. Pour ceux que ça intéresse, j'ai publié un recueil d'articles qui s'appelle « Faire voir l'art à l'épreuve de ses médiations », qui est donc une étude du travail de ces intermédiaires de l'art, et que j'ai terminé par une petite annexe qui s'intitule « Comment observer une commission », qui sont donc des conseils pratiques pour des sociologues qui voudraient observer des commissions. Voilà. Donc j'avais prévu de vous raconter des scènes, hein, mais ce serait un petit peu trop long. Je donne simplement la conclusion de la première scène, qui est une scène donc intervenant dans un comité d'achat de FRAC, hein, pour acheter des œuvres d'art en région, et où l'on voit que alors ça peut paraître très paradoxal, mais la valeur de beauté est pratiquement inexistante, voire contre-productive, avec, par exemple, quelqu'un qui dit « ça, c'est très joli, on n'en parle pas, on élimine hein. ». Bon, c'est quand même assez paradoxal. Si vous avez lu mon livre « Le paradigme de l'art contemporain », vous saurez pourquoi, en art contemporain, la question de la beauté est devenue soit une non-valeur, soit même une anti-valeur, ce qui est évidemment totalement paradoxal par rapport à l'histoire de l'art occidental. La question de la pérennité est faible. Pourquoi ? Parce que les artistes en art contemporain adorent faire des œuvres éphémères, justement parce que le paradigme de l'art contemporain étant basé sur la transgression des frontières traditionnelles attribuées à l'art, une des caractéristiques classique en art étant la pérennité de l'œuvre, transgresser la pérennité en faisant des œuvres éphémères fait partie de la grammaire attendue de l'artiste contemporain. Donc, du même coup, cette question de la pérennité est peu pertinente. On a notamment, dans cette session, ils ont acheté une œuvre faite avec de la purée. Donc, je ne vous dis pas les problèmes techniques que ça pose pour pérenniser. C'est quand même une œuvre patrimonialisée. Une fois qu'elle est achetée par un FRAC, elle fait partie du patrimoine. Donc, comment faire pour maintenir la pérennité constitutif du patrimoine, du neuf fait avec de la purée. Bon, je vous passe les détails, mais c'est très intéressant. Et la phrase que j'ai retenue, c'est « la pièce à la purée, elle est magnifique ». Donc là, on a un jugement de valeur en termes de beauté, mais appliqué à une œuvre éphémère. Bon. Et triviale, évidemment, puisque la purée, c'est très trivial. Ce qui est très positif, c'est le jeu, hein, l'idée qu'on va jouer, par exemple, le jeu, la dérision, le second degré, etc. Par exemple, une œuvre qui est une copie au crayon de couleur des couvertures de Télé-Z. Bon, c'était ça qui a été acheté. Et le critique qui défend cet achat dit « Ce qui me plaît dans ce travail, c'est que c'est la figure du copiste, mais inspirée par Bouvard et Pécuchet. C'est un travail assez imbécile d'une certaine façon, mais très intéressant par sa littéralité. » Bon, vous voyez comment on construit de la valeur par l'interprétation sur un objet qui joue sur le ludisme, le second degré, etc. Bon. Évidemment, vous venez de le comprendre, l'interprétation, la capacité à donner du sens, c'est-à-dire l'imputation d'une signification à l'œuvre est fondamentale dans ces situations d'attribution de valeur à des œuvres d'art contemporain. Il faut qu'il y ait du sens, hein. Et si apparemment il n'y en a pas, c'est le critique qui va en insuffler en interprétant, bien sûr. La singularité, via la nouveauté, l'originalité, l'unicité, est absolument fondamentale. C'est une base, hein, du paradigme contemporain. Je vous en donne un exemple paradoxal. À propos d'une proposition qui a été refusée, le critique dit « la femme à barbe, c'est un classique bon. ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme à barbe, qui est un truc singulier, totalement singulier dans le monde ordinaire. Mais dans le monde de l'art contemporain, il a été très utilisé justement parce qu'il est singulier, bizarroïde, hors du commun, qui est le propre donc de la singularité. Et du même coup, ça devient impensif. Et dès lors que c'est impensif, ça n'est plus singulier. Et donc, on l'élimine parce que c'est trop classique. Hein. Donc, vous voyez les paradoxes auxquels aboutit cette question de la singularité. Maintenant, si je retraduis ce que je viens de vous dire dans le modèle que j'ai construit dans des valeurs, que j'ai appelé la grammaire axiologique. La grammaire axiologique, c'est le système très construit, très codé d'une certaine façon, que nous utilisons tous sans forcément le savoir quand nous attribuons une valeur. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle les prises, affordance en anglais, c'est-à-dire les caractéristiques matérielles, par exemple, de cette table, qui font que nous pouvons lui attribuer des qualités. Bon, elle est carrée, elle est moche, elle est tout ce que... Bon, peu importe, mais... Non, mais je n'ai pas dit qu'elle était moche, mais c'est pour, c'est pour donner des exemples. Hein. Elle est très belle, en fait. Bon. Mais bon, donc, ce sont les prises, donc les caractéristiques objectives. Sur ces prises, nous affectons des critères, hein, des critères qui sont donc des qualités qui vont nous permettre de faire des choix. Un critérium, c'est le choix. Et donc, ça va être un critère de géométrie, de stabilité, de couleur, etc., etc. Et ces critères vont correspondre à un niveau encore plus général, les prises, il y en a beaucoup, les critères un peu moins, et vont correspondre à des valeurs, par exemple la beauté, par exemple la solidité, etc., etc., ou la fonctionnalité. Bon. Et donc on a cette pyramide comme ça, hein, prises, critères, valeurs, qui sont plus ou moins explicites. Alors, dans le jugement de valeur ordinaire, ce sont les valeurs qui vont intervenir. On dira, oh, qu'est-ce que c'est beau, ça. Et puis, quand on va commencer à discuter, parce qu'on n'est pas d'accord, on va descendre au niveau des critères. Mais attends, pourquoi tu dis que c'est beau? Ben, c'est beau parce que c'est parfaitement symétrique. Ah, pour toi, la symétrie, c'est... Bon, bref, voilà. Et éventuellement, quand on va avoir affaire à des débats d'experts, on va descendre au niveau des prises. Attends, je vais mesurer et je vais te montrer que c'est pas symétrique. Hein, voilà. Non, mais, voilà. Et donc, selon les contextes des jugements de valeur, on va pas avoir les mêmes outils. Donc, prise, critère, valeur. Et ce que j'ai rajouté, c'est quelque chose qui n'est pratiquement jamais explicité par les gens, mais qui me semble implicite, et c'est là que le structuralisme intervient dans leur jugement de valeur, ce sont les familles de valeurs, ce que j'appelle des registres de valeurs, c'est-à-dire des regroupements de valeurs qui font que on parle de choses à peu près homogènes. Par exemple, la valeur de beauté, la valeur de monumentalité, la valeur de sublime correspond à peu près à ce que nous appelons l'esthétique. Hein. En gros, c'est le registre esthétique. On va avoir la valeur de jeu, par exemple, de dérision, de capacité de jouer avec les choses, etc. J'ai appelé ça le registre ludique. On va avoir la valeur de plaisir, le registre esthésique, au sens de la sensation. On va avoir la valeur de signification, de sens. J'ai appelé ça le registre herméneutique, c'est-à-dire la possibilité d'accueillir une interprétation. On va avoir la valeur, évidemment, la valeur morale, la valeur de charité, d'empathie, etc., qui relève du registre éthique. Mais le registre éthique, on le voit, recoupe plusieurs valeurs. Ça peut être la charité, ça peut être la bonté, ça peut être, etc. Bon. On va avoir la valeur de fonctionnalité, que je mets dans le registre opératoire de l'efficacité, de la force, de la puissance. On va avoir la valeur de savoir-faire, de virtuosité, qui sera dans le registre technique. J'en ai 16 en tout, hein, je ne vous les dis pas tous parce que voilà, ils sont là, et qui nous permettent de nous repérer, en fait, dans les désaccords, dans les débats, dans les controverses. Et c'est ce qui m'a permis, par exemple, de montrer que dans le paradigme de l'art contemporain, les registres dominants ne sont plus le registre esthétique, même s'il peut parfois être présent, mais assez, de façon assez pauvre, mais que par contre, ce qui a pris une force énorme, c'est le registre herméneutique. Il faut absolument pouvoir amener des significations pour valoriser l'œuvre. Et le registre ludique, très important, ce que ne voient pas évidemment les partisans du paradigme moderne, où la valeur esthétique de beauté et la valeur pure d'authenticité sont fondamentales, ni les partisans du paradigme classique, où sont dominantes le registre esthétique, le registre technique de la virtuosité, le registre éthique des valeurs morales lorsqu'il s'agit de peinture, d'histoire, etc. Voilà essentiellement les grands. Hein. Et on voit comment la couleur axiologique de ces différents paradigmes esthétiques, se modifie selon ces paradigmes. Alors, je vous ai parlé de la pérennité. La pérennité, elle peut s'appliquer, cette valeur peut s'appliquer à toutes sortes de registres, que ce soit l'esthétique, l'éthique, etc. Et j'ai repéré comme ça un certain nombre de valeurs qui ne peuvent pas s'intégrer dans un seul registre parce qu'elles sont pertinentes pour tous les registres. Elles sont d'une certaine façon transversales aux différents registres et elles ne font qu'amplifier des valeurs préexistantes. Par exemple, la pérennité peut amplifier la valeur de beauté en régime patrimonial. Et j'ai appelé ces valeurs particulières des amplificateurs de valeurs, hein, tout simplement, parce qu'ils amplifient. Et donc, on en a quatre. Hein. On a essentiellement la pérennité, qui est l'amplification dans le temps, soit par l'ancienneté vers le passé, soit via la postérité, quand on est vers l'avenir. On a la valeur d'universalité, très importante aussi, qui va amplifier par l'universalisation. On a la valeur de rareté, c'est grand parce que c'est rare, et on a la valeur d'originalité, c'est grand parce que c'est nouveau. Bon. Donc ces grands amplificateurs vont se croiser hein, avec les valeurs pour les amplifier, et on remarque que ces quatre amplificateurs se structurent d'une part en fonction de l'axe temps-espace, temps pour pérennité, nouveauté, espace pour universalité-rareté, mais aussi selon l'axe de la singularité et de la communauté. C'est-à-dire, il y a les deux amplificateurs de pérennité et d'universalité impliquent que l'on accorde de la valeur à tout ce qui est partagé, commun, nombreux, etc. Alors que les valeurs de rareté et d'originalité impliquent que l'on accorde de la grandeur à tout ce qui est original, hors du commun, singulier, bizarre, unique, etc. Et c'est ce que j'avais appelé dans La gloire de Van Gogh le régime de communauté et le régime de singularité, en montrant comment la possibilité qu'un artiste comme Van Gogh accède à l'admiration commune dépend de la capacité des juges, donc de ceux qui produisent des opinions à son sujet, à passer du régime de communauté au régime de singularité. Et j'ai montré dans l'élite artiste comment le changement de paradigme, du paradigme classique au paradigme moderne dans le courant du 19e siècle, est en fait un basculement du régime de communauté au régime de singularité en art. Donc voyez comment on a cette architecture, prise, critère, valeur, registre de valeur, amplificateur, régime de qualification, régime de communauté, régime de singularité. Et c'est dans cette pyramide que se structure la possibilité de produire des jugements de valeur crédibles, acceptables par autrui. Et voilà comment donc on peut faire une description axiologique ici du paradigme contemporain, puisque là j'étais dans l'exemple des jugements de valeur en art plastique. Je vous donne juste un exemple de comment se combine le régime de communauté et le régime de singularité. Ça va si je prends encore 5 minutes? C'est bon. Une critique d'art réputée a fait un texte sur Jeff Koons, au moment de la grande exposition à Beaubourg, qui dit « Jeff Koons est devenu au fil des 35 dernières années l'un des artistes les plus célèbres et les plus controversés. » Célèbre, c'est le registre réputationnel, je n'ai pas pensé à vous le dire. L'honneur, la célébrité, etc. De la scène contemporaine. Fin connaisseur de l'art de son temps et admirateur enthousiaste de l'art du passé. Donc, voyez comment c'est à la fois pérennité et originalité. Il a façonné une œuvre profondément singulière, régime de singularité, et bousculé le monde de l'art, régime de singularité, n'en finissant pas de défier la critique, régime de singularité, questionnant avec acuité le concept de valeur, régime de singularité. Personnifiant une certaine idée américaine de la réussite, Koons est l'observateur perspicace du monde dans lequel il vit. Il en interroge les objets cultes, toujours la singularité, l'idée qu'il faut que ce soit atypique, problématique, questionnant, etc., pour avoir de la valeur, pour mieux en subvertir les codes, en singularité, et il utilise astucieusement les possibilités offertes par les médias. Alors là, on voit poindre le régime de communauté, parce que les médias, c'est le grand public, c'est la diffusion, c'est le grand nombre, à travers le personnage qu'il s'est construit, régime de singularité, à l'instar d'un Salvador Dali. Fonctionnant par série, l'art de Koons est avant tout un art de la représentation qui fourmille d'archétypes. Bing, régime de communauté, et de motifs familiers, régime de communauté, puisé sans complexe dans la culture de masse, communauté toujours. Jouant sur les contrastes, Koons ne cesse de vouloir les magnifier grâce à l'usage de matériaux traditionnels, régime de communauté, comme de technologies de pointe, régime de singularité. Je vous passe les exemples. Il parle de tradition classique. Koons travaille désormais à rejoindre l'histoire avec un grand H intégrant des chefs-d'œuvre de l'humanité, régime de communauté, à ses séries, mettant ainsi plus que jamais en jeu la définition des frontières de l'art, et on termine sur le régime de singularité. Vous voyez comment un même texte combine les deux régimes de qualification pour produire la valeur. Et pour comprendre ça, alors si on raisonnait de façon logicienne, logiciste, on dirait, mais c'est contradictoire, ce critique, il ne sait pas ce qu'il raconte, il mélange deux régimes incompatibles. Mais on n'est pas dans un monde logique. Notre monde axiologique n'est pas un monde gouverné par la logique, c'est un monde gouverné par l'accumulation des arguments qui peuvent parfaitement emprunter à des registres de valeurs totalement hétérogènes, voire contradictoires, et, vous venez de le voir, à des régimes de qualification contradictoires. Et c'est justement la possibilité pour un objet d'accueillir des valeurs, des registres de valeurs, des amplificateurs, des régimes de qualification très multiples et hétérogènes, et évidemment la capacité du critique à faire cette imputation de valeur qui va attester de la grandeur de l'objet. En fait, plus un objet accueille une grande variété de possibilités d'attribution de valeur, et plus il aura de fait, en tout cas au résultat, de la valeur. Voilà, je ne vais pas vous raconter un truc très marrant, mais si je vous donne juste alors un exemple très amusant. Parce que j'ai travaillé aussi sur les... Alors, mon corpus, c'est toutes sortes de choses que j'ai attrapées à droite à gauche. C'est beaucoup d'anecdotes, parce que je pense que les anecdotes sont un merveilleux matériau sociologique. Quand on raconte une anecdote, c'est qu'il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a un truc hors du commun, et donc du même coup, qui en négatif nous indique ce que devrait être la norme. Et du coup, c'est parfaitement légitime, me semble-t-il, de faire de l'anecdote un matériau pour le sociologue. Et donc, j'ai trouvé cette anecdote dans un magazine, tout le monde a pu le lire. C'est un jeune Américain qui, aux États-Unis, vient de lancer une campagne pour retirer toutes les toiles littéralement horribles de Renoir des murs de la National Gallery de Washington. Pourquoi, demande-t-il, tant de gens pensent que Renoir est un bon peintre, mais dans la vraie vie, les arbres sont magnifiques. Alors là, registre esthétique, mais la valeur de beauté est affectée au référent de la peinture et non pas au tableau lui-même. Si vous prenez les tableaux de Renoir, vous penseriez que les arbres sont juste une collection de gribouillis verts. Bon, registre esthétique en forme de disqualification du tableau. Dans sa pétanque, il fait une pétition hein, quand même, où il vise la National Gallery en tant que musée public, et il écrit « Les œuvres de la National Gallery appartiennent à tous les citoyens américains ». Alors là, on est dans le registre civique du bien commun. Hein, la valeur, c'est le bien commun. Je pense donc que l'on devrait avoir notre mot à dire. Encore le registre civique du citoyen qui doit pouvoir parler sur les œuvres d'art qui sont dans les musées. Notre mot à dire sur les choix artistiques qui ont été faits. Alors, il se demande si Renoir était un génie de la peinture ou un simple faiseur, et lui répond Geneviève Renoir, arrière-arrière-petite-fille du peintre, qui donc lui répond sur Instagram. Alors, on pourrait s'attendre à ce qu'elle réponde sur le registre esthétique, hein, qu'on attend d'une petite arrière-petite-fille de peintre, s'agissant d'un des grands peintres, etc. Ben, pas du tout. Elle lui répond « Quand ton arrière-arrière-grand-père » alors là, c'est le registre domestique du lien de famille, hein, de la solidarité ancestrale. « Quand ton arrière-arrière-grand-père aura peint quelque chose qui vaut 78,1 millions de dollars » et là, on est dans le registre économique où ce qui fait la valeur, c'est l'argent « tu auras peut-être le droit de critique » et là, c'est le registre civique de la liberté d'expression. Voilà. Donc, on voit comment il y a une incongruence des registres de valeurs dans la proposition initiale, la pétition, avec des registres de valeurs qui n'ont rien à voir avec ce que, dans ce contexte, on attendrait d'une évaluation légitime, disons. Et à cette incongruence répond une autre incongruence, c'est ça qui est amusant, avec une réponse sur un plan domestique, économique et civique, et pas du tout sur un plan esthétique. Et qu'est-ce qui se passe ? On rigole. Hein. C'est-à-dire que quand on a une mauvaise manipulation des valeurs, quand des gens ne connaissent pas bien la grammaire, quand ils font des fautes de goût axiologique ou de langage, exactement comme nous faisons des fautes de français, quand nous faisons des fautes de grammaire ou quoi, ils font des fautes de grammaire axiologique parce qu'ils maîtrisent mal le répertoire axiologique, le répertoire de valeurs qu'ils seraient censés utilisé dans le contexte en question. Et donc, dès lors qu'il y a ce type d'incongruence axiologique, ça fait rire. Hein. Il y en a aussi qui font pleurer. Alors, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y en a une dans le livre qui me fait pleurer chaque fois, et j'ai essayé de comprendre pourquoi je pleure. Et c'est aussi un problème de conflit de registre de valeurs, et non pas de valeurs. Voilà, je vais peut-être essayer de conclure. Juste pour vous dire que je suis partie pour faire ce travail d'une collection de cas que j'avais constituée de débats sur la corrida, où je m'étais dit, mais finalement, pourquoi est-ce que les débats sur la corrida sont interminables ? C'est parce qu'ils font s'affronter, d'un côté, le registre esthétique, la corrida est un art avec magnifique, etc., culturel, hein, et de l'autre, le registre éthique de la sensibilité à la souffrance animale. Or, ces deux registres sont extrêmement différents, voire assez peu compatibles, et du même coup, les gens ne peuvent tout simplement pas se comprendre parce qu'ils ne parlent pas sur le même registre. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot de registre. Hein. C'est comme en musique. Hein. Bon. Et d'où le caractère interminable de ce type de débat. Quand on a juste des conflits de critères ou des conflits de valeurs, on peut arriver à discuter et à s'entendre. Quand on a des conflits de registre, c'est très difficile. Et à partir de ce cas de conflit éthique-esthétique, j'ai décidé donc de constituer, j'ai fait ça pendant 30 ans, hein, j'ai découpé chaque fois qu'il y avait des conflits de registres éthique-esthétique, et puis là, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas deux registres, mais beaucoup plus. Hein. J'ai appliqué cette problématique à au rejet de l'art contemporain, et du coup, j'ai été amenée, de façon parfaitement empirique, à mettre en évidence, pour le moment, il y a 16 registres, il y en aura peut-être d'autres, hein, si j'en découvre d'autres, mais bon. D'autres peut-être en découvriront donc, mais pour le moment ça me suffit pour analyser tous les cas de controverse que j'ai pu trouver dans différents domaines. Donc là je ne vais pas en parler parce que ça irait trop loin. Si, je vais terminer sur les non-valeurs ou les anti-valeurs, c'est-à-dire les valeurs qu'on n'est pas censé trouver dans le travail d'un critique d'art professionnel.
Alors, d'abord, la valeur de coût, hein, de coût d'argent, de prix, qui relève du registre économique. Imaginez un critique qui dirait « Cette œuvre est magnifique, la preuve, c'est qu'elle vaut très cher. » Bon, à mon avis, il se fait virer. Hein. Bon, je parle du critique professionnel. La valeur de plaisir, qui relève du registre esthésique. « J'ai adoré ce film avec cet artiste qui est une vraie bombe. Quel plaisir pour les yeux. » Bon, ça va pas. Hein. Exclu. La valeur de sentiment qui relève du registre affectif. Oh, j'ai pleuré à la fin. Je suis tombé amoureux de l'héroïne. Là non plus, pour un critique professionnel, ça marche pas. Le registre affectif, c'est pas bon. La valeur de filiation, de fidélité aux aînés qui relève du registre domestique. L'auteur est le fils d'un grand écrivain. Son œuvre mérite le détour. Ça marche pas. Hein. Bon. La valeur de réputation, registre réputationnel. Cet auteur est tellement connu qu'on ne peut qu'avoir un avis favorable sur son dernier roman. Bon, voilà. La valeur de moralité, registre éthique. Voilà un roman tout à fait édifiant qui nous rappelle à nos devoirs. Ça marchait au XIXe siècle, mais aujourd'hui ça ne marche plus. Et enfin, la valeur de l'égalité, registre juridique, hein, comme ça vous verrez mes 16 registres. Un réalisateur accusé de viol ne peut produire que des œuvres abjectes. Et là, on retombe sur des débats assez actuels. D'accord ? Voilà, voilà donc une série de registres de valeurs exclus de la critique d'art. Et le critique qui s'aventurerait à les utiliser ben, se disqualifierait. Et ça, son discours critique n'aurait plus aucune valeur pour revenir au. La première partie de mon exposé. Donc, je conclus. Le savoir-faire ou la compétence du critique d'art ne porte pas que sur leurs objets, l'art, le cinéma, la littérature, la musique, mais aussi sur ce qui est implicitement attendu compte tenu de leur position, notamment en matière de valeurs mobilisées. Et c'est ce que j'appelle une compétence axiologique à laquelle les acteurs n'ont pas consciemment accès. Les critiques d'art ne savent pas qu'il faut... respecter les contraintes que je viens de vous lister, mais ils savent qu'il faut le faire de façon implicite, intériorisée. Donc, ils n'ont pas consciemment accès, mais ils maîtrisent très bien cette compétence axiologique, sauf que c'est le sociologue qui est amené à l'expliciter, exactement comme le grammairien explicite la grammaire que les acteurs, en parlant, suivent spontanément, sans pour autant savoir qu'ils la suivent. Et on est exactement le même travail d'explicitation des structures qui font la condition de félicité d'une phrase bien formée, c'est le travail du grammairien, et les conditions de félicité qui font la production d'un jugement de valeur bien formé et acceptable, c'est le travail du sociologue qui fait de la sociologie axiologique. C'est ce que j'ai essayé de faire devant vous ce soir. Mais évidemment, ce travail de mise en évidence des structures sous-jacentes de l'expertise critique ne peut se faire qu'en se déprenant de toute volonté de défendre ou d'attaquer l'objet en question. Encore une fois, la neutralité axiologique est un réquisit fondamental pour le travail du sociologue des valeurs. J'espère vous en avoir convaincu. Voilà, merci de votre attention.